Bon, alors, on est dans la période des 3 semaines. C'est une période dite lourde entre Yud-Zayin Bétamouz et Tisha B'Av. Et je pense que la plupart de nous, on connaît l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, ce qui s'est passé. Je ne la connais pas. On va la répéter rapidement, mais on ne va pas l'étamec là-dessus. Kamsa, il mariait son enfant, il faisait une fête. Et donc, c'était un homme très riche. Et il avait... C'était quelqu'un qui faisait un mariage, d'accord. Il mariait son enfant. Et il était très riche et c'était quelqu'un, un notable de la ville. Il a dit à un de ses amis, il lui a dit, voilà, les lettres sont prêtes, les invitations, va les distribuer. Et donc, il a été les distribuer et il s'est trompé à un moment donné. Il y avait dans la ville un qui s'appelait Kamsa et un qui s'appelait Bar Kamsa. Et lui, il s'est trompé. Au lieu de donner à Kamsa, il a donné à Bar Kamsa, si je ne me fais pas l'erreur. Et donc, quand il a reçu l'invitation, il a dit, ah, il m'a invité. Ils étaient fâchés. Ils étaient fâchés les deux. Il a dit, ah, il m'a invité. Tu sais quoi, je vais y aller. Et il s'est retrouvé donc au mariage. Et là, il se retrouve que l'autre, il vient, le notable, il lui dit, mais tu fais quoi ici? Sors d'ici. T'imagines la honte devant tout le monde. Et donc, il lui dit, je t'en prie, laisse-moi, je vais te payer ma place. Non, 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 tu sors d'ici, je te paye la table, je te paye les invités, je te paye ta fête, rien. L'autre, il était prêt à tout lui donner, rien que ne me fais pas honte. Rien. Laisse tomber qu'il y avait à ce moment-là tout le monde, toute la ville, des rabbanim, des gens très saints et tout ce que tu veux. Personne n'a bougé pour dire, alors, arrête-toi. À un moment donné, tu vois pas ce que tu es en train de faire, c'est grave. Donc, il s'est levé. Il est parti. Et de là a commencé toute l'histoire. Il a voulu se venger. Voilà l'histoire, en gros. Et donc, moi, je me suis dit, on va essayer, nous, de réfléchir, d'accord, à cette notion de loticum velotitor. C'est-à-dire, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. D'accord ? C'est quelque chose qui nous atteint, nous tous, tous les jours, à chaque instant, que ce soit avec des étrangers ou même au sein de notre famille. D'accord ? On va essayer de réfléchir aux conséquences en réalité de nos actes. Parce que des fois, on va dire que on s'attrape des crises de nerfs et on a des réactions, mais il faut réfléchir toujours ces réactions. Où est-ce qu'elles vont nous mener ? D'accord ? Ça racole l'histoire avec Bar Kamsa. C'est que de nerfs et de honte et d'humiliation et de tout ce que tu veux, il a été quand même nous vendre, d'accord, aux ennemis. Et de là a commencé la destruction du temple. Et on a payé très cher et jusqu'à maintenant, on le paye, tu comprends? Tout ça, pourquoi? Parce que, un, il y a eu déjà dans un premier temps une personne qui est venue et qui a humilié son prochain. D'accord? En second, on était tous présents. Et la normalité, c'était qu'il y en ait au moins un qui vient, qui dit, attends, viens, on calme les esprits. C'est-à-dire... Tu sais quoi, il y a eu ce qu'il y a eu. Viens, calme-toi, laisse, viens. Personne n'a rien fait. D'accord ? Et troisièmement, la personne qui a été humiliée, bon, c'est très difficile, hein, parce qu'elle a été touchée dans son ego et c'est difficile et tout ce que tu veux, qui a dit, moi, je vais me venger. Et cette vengeance, ben, c'est assourd. Parce que si dans la Torah, il y a marqué, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune, tu penses bien que c'est une loi qu'Hachem, il a donnée, pas pour ta copine. Il te l'a donné justement dans ce cas-là, ça veut dire dans le moment où justement tu vas recevoir tu vas subir une grande honte, tu vas subir une humiliation, et que d'une manière, on va dire, humaine, c'est normal, c'est comme ça, tu vas vouloir tout de suite réagir. Mais il faut se poser la question, attends, où c'est que ça va m'emmener tout ça? D'accord? Donc on va essayer, Bémet, de réfléchir ensemble, si vous le voulez bien, à toutes les conséquences et toute cette manière justement de se comporter, d'accord? Déjà, on va prendre depuis le début. Tout à fait. Déjà une chose, d'accord? C'est que des fois tu te retrouves dans des situations où tu es face à des gens entre guillemets, face à tes ennemis, face à des gens qui avec qui tu n'as pas vraiment d'atomes crochus. D'accord ? Ça racole. Il faut revenir toujours à la source et à la base. C'est bien Hachem qui a fait que ces gens, on était ensemble et qu'on s'est retrouvés l'un face à l'autre. Et donc, encore une fois, ça veut dire, si j'oublie, j'ai mon libre arbitre maintenant. Je pense avec Hachem ou je pense sur Hachem. Si j'oublie qu'il y a Kadosh Baruch Hu, regardez tout ce qui va découler. La destruction, d'accord, du Beth Amikdash, la haine gratuite et tout ce que vous voulez. Si depuis le début, je me dis, je vis avec Hachem, à chaque instant de ma vie, je vis ma mâche avec Akadosh Baruch Hu. Si depuis le début, je vois, ah, il y a mon ennemi. Bon, ok, c'est quoi? Allez, Mishamayim. Ce mot-là, tu vois, Mishamayim, c'est-à-dire c'est Hachem qui a voulu ça. Ce mot, il est très important de le dire et de se le répéter à chaque instant. Parce que si, Bémet, quand des fois tu te retrouves dans des situations où tu as une difficulté à passer cette situation, si à chaque fois tu te dis, attends, c'est Mishamayim, donc, en fait, la personne d'en face, c'est pas tellement lui le problème, c'est Hachem. Qu'est-ce qu'il veut de moi maintenant et comment je dois me comporter? Tu comprends? Donc, si à chaque fois j'ai cette notion qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans ma vie, je réagis différemment.
J'ai une question qui n'est pas trop en rapport, mais quand tu dis Mina Shamayim, c'est-à-dire quel est le rapport entre les Shamayim et Hachem? C'est-à-dire que pourquoi on.
Ça veut dire ça vient d'Hachem.
Okay, et tu pourrais dire.
Mina Shem?
Ouais,
on dit Mina Shamayim. Ouais, ça vient de Dieu, ça vient du voilà. Ça vient du ciel, ça vient d'Hachem, puisque Hachem il est dans le ciel, il est censé.
Je sais pas, les enfants ils te disaient où, tu vois les trucs. Moi quand j'étais petite, je disais le ciel. Mm-hmm. Donc quand tu dis Mishamayim, c'est bon.
Tu peux aussi dire aux enfants quand ils te disent où il est Hachem. Pas seulement qu'il est partout, tu peux dire aussi il est là en toi.
Ouais.
Il est là. Tu comprends? Tu peux développer cette notion des enfants que tu sais, il y a quelqu'un avec toi. Il y a Kadosh Baruch Hu, tu n'es pas seul. C'est-à-dire, à chaque instant de ta vie, il y a Boré Olam qui est avec toi, qui est en toi. La notion de dire « je suis seul », d'accord, c'est pas, il y a toujours un Kadosh Baruch Hu.
En fait, c'est pas à travers ta Neshama.
Oui.
D'accord.
C'est ce point divin qui est en toi et que tu dois justement développer. Tu comprends? Et puis dire, quand tu dis ça à tes enfants, automatiquement, s'il est en moi, c'est qu'il est aussi en toi. En l'autre, en truc. Donc automatiquement, tu développes chez l'enfant et chez nous-mêmes, bien évidemment, cette notion d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tu comprends, tu réagis différemment. D'accord? Donc c'est important chaque instant de se rappeler qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la rancune. Bémet, pourquoi on se venge en général, d'après vous?
Ça
te fait du bien de te venger?
Je ne peux pas le faire seulement, mais c'est vrai que ça te calme.
T'as l'impression que quoi? T'as fait quoi? La justice?
Oui, la justice,
exactement. Mmh. D'accord. Ok. Est-ce que quelqu'un a vu, sûrement qu'on est tout assez, âgés pour dire qu'on a sûrement dû vivre nous-mêmes, ou nous-mêmes on s'est comporté comme ça, ou on a vu en face de nous. Est-ce qu'on a vu quelque chose de positif qui est sorti de la rancune? Ou de la vengeance? On est d'accord que... Ok. Alors, pourquoi alors?
Ce qu'on a vu, c'est qu'après, parce que Hachem s'occupe de faire la justice. Après, on a tendance à dire, ah ben... Ça, voilà. Il a été... c'est Hachem qui a fait la justice.
D'accord. Ok.
Donc ça aussi, c'est pas...
C'est pas le top aussi de se réjouir du malheur de son prochain.
Je ne réjouis pas, mais on dit, ah ben voilà, il a payé quoi, il a fait ça, et mm-hmm. tout seul.
Tu l'as remis à ta place, c'est-à-dire qu'il t'a un peu cassé quand il t'a humilié, tout ça. Donc tu as perdu là où tu étais, ton moi, ta dignité. Donc quand tu vas lui faire du mal, bah, tu as l'impression, toi, de t'être remis à ta place.
D'accord.
Peut-être ton ego.
Ok. D'accord. Donc, en fait, quand quelqu'un se venge, c'est quelque part pour remplir son ego. D'accord. Et l'ego, ça nous mène où?
Tu prends la place un peu de la chaîne.
C'est ça toute l'histoire. C'est que ça racole quand tu viens et que tu te venges, ou que tu gardes rancune contre quelque part, c'est que quelque part tu es face à Kadosh Baruch Hu, Boker Tov, tu es face à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Tu lui donnes plus sa place et c'est Keilu, c'est moi d'abord. C'est moi ici qui prends une place énorme. Tu comprends? C'est-à-dire que quand maintenant Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune, quelque part, c'est te remettre aussi à ta place. Parce que quand je veux, quand j'ai ce sentiment-là de rancœur et de vengeance et tout, c'est que moi-même maintenant, moi j'ai l'impression qu'on m'a déplacé de ma place. D'accord? On m'a humilié. Donc déjà, première mauvaise et fausse impression. Et cette mauvaise et fausse impression va encore t'éloigner. Parce que le fait que tu veux te venger et que tu veux maintenant, d'accord, faire ton truc, ton justicier, là encore, hop, tu t'éloignes encore plus de ta place. Et ça, c'est le plus grand des Yetzerara. Ça veut dire, en réalité, on veut t'emmener maintenant dans des endroits, d'accord, où tu vas complètement te déconnecter d'Akadosh Baruch Hu, tu vas te déconnecter de ton point divin et surtout, tu vas développer des mauvaises marches à vote. Et tu vas développer le Aïn Ra. Attention, pas le Aïn Ara. Le Aïn Ara, c'est le mauvais œil. D'accord? Le Aïn Ra, c'est le mauvais regard, en fait. Et ça, quand tu développes le Aïn Ra, le mauvais regard, ça y est, c'est porte ouverte à tout. C'est-à-dire, tu vas regarder tout tordu. Une situation, quelle qu'elle soit, tu vas la tordre, tu vas la transformer et tu vas en arriver à ne plus supporter l'autre et à ne plus te supporter toi-même. Regarde jusqu'où ça t'emmène, d'accord? Cet ego. Tout ça, on a commencé par l'ego. Parce que si maintenant, Bémet, une personne, elle a agi avec moi d'une manière ou d'une autre et que moi, je me rappelle et je me dis, regarde, Bessofo Sheldavar, d'accord? Ce qu'il y a eu, c'est Mina Shamaim. On m'a humilié. Rappelez-vous la Torah Vav du Likutei Moharan, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait, on avait lu à l'époque? Une personne, comment elle va arriver à faire tshuva, d'accord? La plus belle des tshuva et le meilleur des pressings, c'est quand tu reçois une humiliation et que tu te tais dans ta bouche et dans ton cœur. Idom veishtok. Tu rougiras et tu te tairas. C'est une humiliation. Mais cette humiliation, en réalité, elle te nettoie. C'est comme un Yom Kippour. À tel point, on te dit que quand tu reçois une humiliation et que tu t'es tue, tu as la capacité de bénir. C'est pas rien. C'est énorme. Alors, bien sûr, on n'est pas en train de dire on a envie de se faire humilier et on recherche l'humiliation. Hein. Bien sûr que non, c'est terrible. Okay? Mais si à chaque instant, j'arrive à me rattacher justement à ce point divin, automatiquement, ma réaction, elle va être différente. Ce qui est certain, c'est que si maintenant j'ai été pris dans le flot, on va dire, je me suis fait humilier et je n'ai pas supporté, et je commence maintenant à vouloir, d'accord, je nourris des mauvaises pensées et des pensées de vengeance. Il faut tout de suite, tu comprends, à un moment donné, il faut que la personne, elle s'arrête. Comment elle va s'arrêter tout de suite en levant les yeux au ciel? Il faut tout de suite se rattacher à son point divin. Il faut tout de suite se rappeler, attends, il y a un Boré Olam sur Terre. Si, parce que ton problème, il commence que tu as oublié qu'il y a un Boré Olam, mais si tu continues sur ce derrière, mais où tu vas aller?
Mais tu peux dire à la personne, tu m'as humilié.
Oui, tu peux. Tu peux. Ah ben oui. Tu peux tout à fait aller chez la personne et lui dire tu sais, ça m'a. Bien sûr, tu peux tout à fait aller à la personne, même si c'est pas. C'est ça, c'est-à-dire que même si c'est pas tout de suite, parce que des fois on est énervé, des fois on peut être énervé, d'accord? Donc, plutôt que de parler sur le coup à chaud et que tu as les nerfs et que là, c'est tu vas faire... Tu calmes. Tu dis, bon, tu sais quoi? Je vais attendre. Tu peux attendre une nuit, tu peux attendre... Le temps que toi, tu te calmes. Le temps que toi-même, tu te redescends. Et après, bien sûr, tu te dois d'aller chez la personne et de lui dire, écoute, tu m'as dit ça la dernière fois. Ça m'a humilié. Et là, tu discutes. T'as raison, t'as pas raison, pourquoi, comment, tout ce que tu veux. Mais... Tu dois dire, ça m'a fait de la peine, ça m'a humilié, Boker Tov. Tu comprends ce que je veux te dire? On n'a pas le droit de juger, parce que, écoute, on est tous des êtres humains. Pourquoi il y a marqué que tu n'as pas le droit d'aller dormir, d'accord, avec un cœur lourd? Parce que justement, c'est ça qui va faire que tu vas maintenant commencer à nourrir des pensées d'un petit truc, ça va devenir énorme. La première chose que tu dois faire, c'est déjà va chez Borolam. Tu veux attendre la nuit parce que tu es énervé, va te défouler chez Akadosh Baruch Hu. Tu peux dire à Hachem, il y a eu ça, il m'a parlé comme ça, il m'a humilié, il m'a fait mal, il m'a vexé. Déjà, tu t'es sorti. Tu ne dors pas, tu ne restes pas avec ta crasse. Parce que ça va faire après, c'est ça qui va faire le chametz. Ton cœur, il doit être plat. Ton cœur, il ne doit pas faire à chaque fois encore, tu vois, tu rajoutes et tu ramènes, ça va gonfler de tous les côtés. Tu te dois de dire. Tu comprends? Mais ce qui est certain, c'est que à partir du moment où tu as senti une vexation, une humiliation ou une situation, un sentiment d'injustice, la première chose que tu dois faire, c'est tout de suite te mettre en face d'Akadosh Boreux et lui dire, bon, j'ai ressenti ça. C'est sûr qu'en réalité, ce n'est pas normal. Parce que si ça s'est passé comme ça, c'est que toi aussi, quelque part, Akadosh Boreux, tu es derrière cette histoire. Donc, c'est une question de midot. Tu vois, par exemple, dans un couple, souvent dans nos couples, ouais, un il va dire quelque chose, l'autre il va dire quelque chose, et on se sent. Des fois, le ton il monte, des fois, il y a des mots qui vont sortir qui ne sont pas bamakom, et tu peux humilier ton mari, ou ton mari peut t'humilier aussi. D'accord? Bon. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On garde ça en nous et on va commencer à nourrir des mauvaises pensées. Jusqu'au moment où tu vas te retrouver que tu es avec ton mari, mais en fait, ton mari, c'est-à-dire ta moitié, et au lieu d'essayer de dire, attends, c'est mon mari, donc on est ensemble. Non, on va se mettre l'un contre l'autre comme si qu'on est des ennemis. À tel point que, tellement toi tu crois que l'autre, maintenant il t'a dit un mot qui n'était pas bamakom et tu crois que ça c'était pour te faire du mal, c'était pour t'humilier ou j'en sais rien quoi, toi maintenant tu vas te faire un vrai film dans ta tête. Et tu sais, le film il est dangereux parce que le film il peut t'emmener très loin.
Bah c'est surtout si tu te poses et que tu arrives à réfléchir, il y a quand même beaucoup de vérité dans ce qu'il te dit.
Ça c'est une évidence, elle vaille qu'on arrive à...
Bien sûr, parce que tu prends mal, parce qu'en général c'est des reproches, mais...
Oui.
Je pense pas que ce soit ni inventé, ni...
Non, c'est pas inventé, mais tu sais, je vais t'expliquer une chose. Tu as des fois des maris... je sais pas ce qui est le mieux pour réfléchir. Tu as des fois des maris, ils te lancent tout en pleine tête, d'une manière très cash. Donc là... T'es déboussolé là, t'as reçu, tu sais quoi, t'as l'impression d'avoir été un punching ball, tu dis attends, comment je vais faire pour me relever, parce que c'est très dur, comme tu dis, c'est des mots qu'il t'a dit qui sont souvent, c'est du émettre, d'accord? Ou alors t'as des maris, ils vont te dire tout, tu vois, mais dans la nuance, tu vois, c'est très nuancé, c'est pas clair, et toi, tu comprends pas, et là c'est terrible en fin de compte, parce que lui, il y reste avec son truc, tu vois, et il te fait des réflexions, des petites réflexions, mais en réalité, à l'intérieur de son cœur, c'est énorme. Ça va exploser. Toi, c'est tellement petit, t'as pas le temps, ça veut dire t'occuper. Le Yetzer Hara, il sait très bien comment t'occuper ta vie, d'accord? Tu prêtes même pas attention. Jusqu'au jour où Bémet, ça explose. Jusqu'au jour où, voilà, il y a un fossé énorme et que tu n'arrives plus. Tu vois, qu'est-ce qui est le mieux, je sais pas. À mon sens, il vaut mieux dire les choses. Parce que ça fait peut-être un peu mal, mais au moins c'est dit. Tu vois, pas que tu restes dans le flou. Parce que rester dans le flou, il n'y a pas pire. Combien on va rester dans le flou? Combien on va rester avec des non-dits? Et puis, chacun après, tu vois, il va nourrir des mauvaises pensées. Et c'est ça le truc, c'est qu'on va arriver à développer ce Ayin Ra. Combien de fois on voit autour de nous, je pense, des couples, d'accord, qui m'amache quand ils se parlent, t'as l'impression qu'ils sont des ennemis. Et tu m'as dit ça, et je suis sûre que tu m'as dit ça pour me faire mal, et t'as pas fait ça. Attends, deux secondes. Pourquoi tu peux penser que ton mari, il ne cherche qu'à te descendre? Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que ton mari, il a un intérêt à te descendre? Franchement, venons réfléchir entre nous.
Il a pas intérêt.
Il a un intérêt, d'après vous? Il a pas. T'es d'accord ou pas?
Non.
Qu'est-ce que tu as ce matin? Très énervé.
Non, il n'a pas d'intérêt.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place?
C'est
mal exprimé peut-être. C'est celui qui nous voit le mieux aussi.
Non, mais attends.
Ça, il y en a qui voient toujours que le mal.
Il est peut-être maladroit.
Il a mal, en fait, il y a une douleur. Oui.
Que les mauvaises choses. Il ne regarde pas que les bonnes choses. Il regarde aussi les mauvaises choses.
D'accord, ok. Alors, c'est sûr qu'il y a...
C'est des caractères.
Tu crois que c'est des caractères?
Ou c'est l'éducation, je ne sais pas. Ou c'est l'éducation.
Mais qu'il n'y a pas, c'est pas en pensée.
Pourtant, attends, pourtant, s'il s'est marié avec toi, c'est qu'il a vu les bonnes choses qu'il y avait en toi. S'il avait vu le mal, il aurait dit, bah non, je ne me marie pas avec elle. Donc, c'est à un moment donné de sa vie, il a été capable de voir le tof. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est est-ce que notre vie nous a aidé à développer justement ce Ein Tov. C'est ça le truc, je pense plus, tu vois, parce que si t'en viens à dire, ben, de toute façon, il ne voit que le mal, non, c'est pas que le mal, c'est peut-être que lui, il vit les événements, tu vois, d'une certaine manière, qui fait que il n'arrive pas à dépasser. Parce que on a un comportement général vis-à-vis de l'autre. Et ce comportement, il touche les points qui lui font le plus mal, on va dire. Mais toi, t'en es même pas consciente. Toi, tu sais pas. Tu fais pas exprès. Est-ce qu'il y a une femme qui prend la décision de descendre son mari? Ça existe? Est-ce qu'il y a une femme qui dit, je veux lui faire du mal, je vais le blesser? Oui, mais alors justement, cette vengeance-là, on est d'accord, donc on en arrive à ce point de vengeance, d'accord, mais est-ce que ça, si on reprend les choses à la base, est-ce que ça c'est normalité dans un couple d'en arriver à vouloir se venger?
Non, mais on peut se dire ce qui va pas,
se venger, ça passe,
c'est pas une vengeance, et tu me dis ce qui va pas, je te dis ce qui va pas.
Ok, et toi tu dis quoi?
Je pense que ça, peut-être t'as le sentiment de vengeance au début, et après ça s'estompe avec les jours.
Ça s'estompe, ou alors ça prend des fois ça prend un peu plus, ça prend de l'ampleur.
Quand ça ne prend pas, ça s'estompe pas du tout.
Tu parles et après ça va mieux. Il faut que tu t'expliques.
Il faut en parler. D'accord. Ok. Mais maintenant je te pose une question. Des fois, moi souvent je rencontre des couples, d'accord. Souvent. Je rencontre des couples, d'accord, et la femme, elle te dit, je ne peux pas parler parce que si je parle, ça va faire des scandales. Ça existe.
Elle communique pas.
Hein?
Quand les couples ne communiquent pas, c'est terrible.
Oui, c'est terrible quand on ne communique pas.
Oui, exactement.
D'accord. Donc, ça veut dire que maintenant, en réalité, ok, je me retrouve face à une personne qui peut être coléreux, une personne qui veut se venger, une personne... Maintenant, d'où ça vient? C'est parce que la personne, elle a eu mal.
Ah oui.
D'accord? Donc, à moi aussi maintenant d'essayer justement de calmer et de remettre les choses à plat. Puisque tu es arrivé à un stade où tu voulais te venger, c'est que dans ta tête, tu t'es fait un film. C'est que dans ta tête, d'accord, tu as développé un INRA et des mauvaises pensées. Quel est mon rôle à moi maintenant? C'est de venir et de réussir à reprendre les choses depuis le début et expliquer en réalité mon comportement, pourquoi j'ai parlé comme ça, pourquoi j'ai fait ça, pour que justement la personne, elle sorte de cette situation. On a une obligation quand on voit une personne, d'accord, qui est fâchée, en colère ou qui développe des mauvaises pensées, je parle du couple, je parle de n'importe qui, d'accord. On a l'obligation d'essayer de faire, d'expliquer à la personne, regarde, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Viens, je te dis, moi, comment j'ai vu la chose, qu'est-ce que moi j'ai voulu faire. Tu comprends ce que je veux te dire? Maintenant, pour réussir à faire tout ça, ce travail, on se doit d'inclure Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Parce que si tu n'inclus pas Akadosh Baruch Hu dans ta vie, tu arrives au stade de Kamtsa. Et par comme ça, c'est la destruction du Beth Amikdash, c'est la destruction de ta maison, c'est ta destruction personnelle. Quand tu n'inclus pas Akadosh Baruch Hu dans ta vie, tu peux être certaine que d'une manière ou d'une autre, tu vas vers ton Chorban, vers ta destruction. Et on le voit autour de nous. Regarde bien, la plupart des gens, d'accord, qui ont des problèmes de Shalom Bayit, si tu réfléchis bien, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on a oublié, Bémet, que, attends, deux minutes, il y a Boré Olam, ça veut dire, tout le mariage, c'est quoi? C'est une Itmo des doutes. On dit la Itmo des doutes. Pas la confrontation, non. La surmontée.
L'Itgaber,
oui, mais je sais, l'Itgaber. On n'a pas le mot. Bon, c'est à chaque fois, on revient là-dessus. Tout le but.
Hein,
s'adapter. S'adapter. Ouais, c'est une sorte d'adaptation, on va dire. Tout le but de. Hein? Non, c'est pas se connecter. Tout le but du mariage, c'est se retrouver face à certaines.
C'est des compromis.
Non. Tout le but du mariage, c'est se retrouver face à des situations voulues par Hachem, face à une personne choisie par Hachem, d'accord? Et savoir comment rester juif face à cette personne. C'est comme
donc
ça qu'on va.
C'est travailler nos midot.
Oui, c'est peut-être un dépassement de soi-même, on va dire peut-être. C'est-à-dire que tout ton mariage, ça va être vraiment un travail sur tous les traits de caractère. Tu comprends? C'est ça en fait. Toute l'histoire du mariage et toute l'histoire de la vie.
Oui, les enfants aussi.
Les enfants, je crois plus que tout. D'accord? Les gens autour de nous, à chaque fois, on se doit à chaque fois d'essayer. Mais regarde, imagine si maintenant, nous tous, d'accord, on arrivait à développer ce Ein Tov avec ton mari, la situation serait différente, tes relations seraient différentes. Ne pas croire qu'il fait exprès. Qu'il ne croit pas que tu fasses exprès. Non, tu ne fais pas exprès. Des fois, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire parce que, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as des blocages, tu as des histoires, tu as de... Viens, on essaye d'avancer, viens, on essaye d'arranger, viens, on essaye de trouver des solutions. Arrête, Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas envoyé des problèmes sans solution. D'accord? Donc, si maintenant, tu arrives à développer ce Ein Tov avec ton mari, avec tes enfants, ne pas te dire, mon enfant, il fait exprès. Mon enfant, il fait des bêtises, il fait exprès de faire des bêtises. Il me rend dingue parce qu'il veut faire exprès. Il ne m'a pas écouté parce qu'il veut faire exprès. Non. Peut-être que mon enfant, d'accord, il a lui aussi ses histoires. Lui aussi, il a ses problèmes. Avec ta belle-mère, ta sœur, ton père, ta mère, les voisins, les copines, les machins. Chacun de nous. On a le matzav ruach pour peu qu'une personne, le matin, elle a eu un différend avec son mari. C'est normal que peut-être qu'après, elle va peut-être être énervée avec sa copine. C'est classique. Elle va peut-être avoir moins de patience avec ses enfants. C'est classique. D'accord? Alors, quelqu'un qui la voit d'exemple, il dit « Ah, elle n'est pas gentille. » Non, c'est pas qu'elle n'est pas gentille. Retourne en arrière. Elle a eu un différend avec son mari. Elle n'est pas bien. Donc, tout le reste, tu comprends, il va être difficile pour elle. Si chaque fois, on arrivait, chacun de nous, on arrivait à faire ce travail, justement, de développer le Ein Tov. Ça veut dire qu'on accepterait notre prochain tel qu'il est. Elle s'est énervée. Ce matin, il m'a dit un mot difficile. L'autre, il n'a pas voulu faire. Attends, il y a peut-être quelque chose. Akadosh Baruch Hu, peut-être tu veux aujourd'hui que je travaille ma savlanout. Peut-être aujourd'hui, tu veux que je travaille ma colère. Peut-être aujourd'hui, tu veux que je travaille la rachmanout. On ne sait pas ce qu'Hachem y veut. D'accord? Qu'on travaille à chaque instant de notre vie. Mais ce qui est certain, c'est que si je développe le Aïnra et que je n'arrive pas... Le Aïnra, c'est le mauvais regard. D'accord? Et que je n'arrive pas à enjamber une situation, automatiquement, je vais me mettre... Dans une position où Chas v'Shalom, je vais vouloir me venger. Et tant que j'ai pas, d'accord, j'ai pas assouvi ce truc de vengeance, c'est de la rancune et ça augmente et ça augmente et je peux devenir violente. Je peux devenir très mauvaise. Je peux avoir des idées Leicester, machiavélique. Ça veut dire la personne, l'être humain, s'il se contient pas, il travaille pas ses midot, oups, jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut aller? On a vu dans l'histoire juive. D'accord, toutes les histoires qu'on a pu passer, on peut faire des choses terribles. Tout ça parce que je garde en moi, d'accord, cet esprit de vengeance. J'ai pas accepté une situation. J'ai pas accepté que cette situation elle aussi, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Si maintenant je me rappelle que cette situation elle vient d'Akadosh Baruch Hu, toute ma manière de penser, elle va changer. Combien de fois on entend des histoires qui sont terribles, qui font beaucoup de peine. On entend des couples qui sont fâchés depuis des années et tu les vois vivre comme ça, chacun de son côté. Des enfants fâchés avec leurs parents, des frères et sœurs qui se parlent plus, des enfants entre eux. Tellement d'histoires. Tellement d'histoires. Et pourquoi ? Souvent, c'est parce que voilà, il y a eu un malentendu, parce qu'il y a eu un manque de présence d'Hachem. Même ça, quand moi je vois que chez l'autre il y a un manque de présence d'Hachem, au lieu de t'énerver contre la personne, aie de la peine pour elle. Ça racole, on doit développer une grande pitié pour la personne d'en face, qui que ce soit, notre père, notre mère, notre mari, nos enfants, notre ami. Quand je vois un manque de présence d'Hachem chez mon prochain, mais je dois éprouver énormément de peine et de rahmanout. Je ne dois pas éprouver de la colère et je ne dois pas éprouver un esprit de vengeance. Et tout ça pourquoi ? Parce que j'ai été blessée dans mon ego ?
Même si ce manque de présence d'Hachem chez la personne fait que la personne est méchante, par exemple, tu dois avoir de la peine pour lui ?
Bien sûr, tu dois avoir de la peine pour lui. Tu sais, il n'y a pas pire que une personne qui a des réactions tordues. Il n'y a pas pire.
Oui, d'accord, mais tu es quand même obligé de t'en éloigner.
Tu peux t'éloigner, mais tu dois garder de la peine pour la personne. Parce que cette personne, elle n'a pas Hachem en elle. Nous-mêmes, regarde, tu sais quoi ? Sans voir la personne, nous, combien de fois on s'énerve ? Combien de fois on a mal parlé ? Combien de fois on a mal réagi ? C'est vrai, on ne va pas faire les saintes ni touches, nous toutes, d'accord ? Comment on est après ? On est bien ? Pourquoi on n'est pas bien ?
C'est une couche de mauvais en nous qui se développe.
C'est quoi cette couche de mauvais ?
En tout cas, c'est pas le bon. C'est le Sarah.
On est à dessous après.
Pourquoi on est à dessous ? Pourquoi on a cette tristesse en nous ? Oui, mais pourquoi ?
On veut d'avoir échoué culpabilité. Pour...
Parce qu'on avait pas mal. On a mal en fait d'avoir fait du mal. C'est
le mauvais de.
Ouais. Mais pourquoi ?
Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas mis Hachem dans notre vie.
Et donc, comme tu n'as pas mis Hachem dans ta vie à ce moment-là, ça veut dire que tu as été contre toi-même. Tu as été contre ta neshama.
Il y a des situations qui font que quelquefois, on n'arrive pas.
Oui, je suis d'accord. C'est ce qu'on est en train de dire.
Même si on réussit un certain temps et que c'est toujours la même chose qui revient, quoi. Des fois on réussit et des fois on craque.
Nahon. Et quand tu craques, d'accord, tu as de la peine. Parce qu'au fond de toi, une fois que tu as craqué et que tu as fait, ça y est, tu as hurlé, machin et tout ça, tu vas redescendre à un moment donné.
Non, mais il y a aussi le fait que quelquefois, quand il y a une situation qui nous dérange, et qu'on a pris sur nous, et qu'on n'a rien dit, ou qu'on a essayé de se contrôler, après on meurt.
Ok, alors on l'a dit tout à l'heure, d'accord, vous êtes venu un peu après, on va le redire. Ça ne sert à rien. D'accord, de dire, bon, tu sais quoi, je vais prendre sur moi éternellement. Mais t'es pas fait en fer. Peut-être tu essayes justement. Peut-être qu'à un moment donné, il faut parler.
Il faut en parler du problème.
Faut en parler.
Pendant que tu es en situation de crise, tu peux pas
parler. Non, on t'a pas dit en situation de crise, mais une fois que la situation de crise, elle va passer.
Pas pour des choses graves, mais il y a des choses qui me font craindre en général. Je prends sur moi. Et quand je veux après en parler, on me dit, ah là, tu lâches rien, t'es rancunière, ça y est, basse, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire ?
D'accord, ok.
C'est fini, c'est oublié, c'est passé.
Alors, ok.
Mais pour l'autre personne, c'est passé parce que j'ai
la vie
et que c'est passé
dans quoi maintenant par la
main. Alors, ce qu'il faut essayer, ce qu'il faut alors dans ces cas-là, expliquer à la personne avec qui tu parles, lui dire, regarde, c'est vrai que c'est passé, mais malheureusement, c'est des choses qui reviennent. Tu vois bien, je me suis énervée aujourd'hui, je me suis énervée il y a une semaine, je me suis énervée il y a un mois. Donc, c'est quelque chose qui est là, c'est latent.
Quelquefois, c'est des circonstances ponctuelles. Quelques fois, ça ne revient pas. C'est la façon dont la personne a réagi ou quelque chose qu'elle a fait qui me
m'a fait de la peine.
Oui, mais toi, pour pas que ça se répète, tu te dois d'aller voir la personne et dire, écoute, il y a eu quelque chose qui m'a dérangée. Et j'ai pas envie de garder ça en moi. Parce que tu veuilles ou pas, d'accord.
Je pense que de toute façon, la personne, elle sait qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien.
Oui, mais Jennifer, je vais t'expliquer une chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, tu sais, lui, il sait, mais on se parle pas. Il faut communiquer. Il faut arriver à parler et à dire, voilà, moi, ce que j'ai ressenti. Peut-être que tu vas t'apercevoir que l'autre aussi, il a ressenti quelque chose qui a fait que peut-être qu'il a... Il a ressenti quelque chose avant qui a fait qu'il a réagi comme ça. T'en sais rien, on va découvrir des histoires. Tu comprends ce que je veux te dire? On ne sait pas. Mais le fait de dire, non, je prends sur moi, on ne peut pas prendre sur soi sans rien dire.
Il y a des choses que, par exemple, la personne en face de toi ne trouve ça pas très, très grave.
Mais si ça... Mais écoute, si ça se trouve, Bémette, que ce n'est pas dérangeant.
C'est vrai.
Attends.
Non, mais si ça se trouve, vraiment, la personne en face, ce n'est pas dérangeant, c'est rien.
D'accord. Mais maintenant, le problème, c'est que toi, ça te rend dingue. Donc, il y a un problème ici. Il y a un travail de midote. C'est ça, justement, la herpatiout.
Moi, je peux parler, je m'en fous.
On s'en fiche à personne.
Par exemple, admettons, moi, c'est souvent avec, avec mon mari.
Mais non, ma soeur chérie, jamais. Non, ce n'est que son mari.
Son problème, c'est-à-dire que si je suis mourante des fois ou fatiguée ou quoi, c'est pas son problème. Il va déléguer ou un gosse ou un truc. Lui, comme il travaille comme un chien et qu'il rentre à 2h du matin toutes les nuits et qu'il va à la choule à 7h du matin, et que... alors il a estimé qu'il ne peut pas m'aider. C'est pas son boulot, c'est pas son truc.
Attends, Atkan, attends. Ouais. Alors, on va toutes se voir retrouver là-dedans, parce que je crois que c'est tout le monde. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tout le monde est dans ce cas. Bon, alors, je te pose... Hein, qu'est-ce que tu dis, Soli?
On est fautive à 1000%.
Alors, moi, je te pose la question. Prenons le cas. Est-ce que ton mari, donc il travaille et tout ça, est-ce qu'il te donne de l'aide extérieure? Oui. Donc, lui, déjà, il se dit, ben, je lui donne de l'aide extérieure. Elle a une dame à la maison. Lui, attends. Non, venez, on va essayer de.
Je vais te donner des cas plus précis, tu vas comprendre.
Attends. Lui, je vais te dire comment il réfléchit dans sa tête. Dans sa tête, il va se dire quoi? Il se dit quoi? Il se dit, mais écoute, je l'aide pas. Mais moi, Jennifer. Regarde lui ce qu'il se dit dans sa tête. Il se dit, je travaille comme un dingue, donc je n'aide pas. Un, ma femme, elle ne travaille pas. Donc, ma femme ne travaille pas. Donc, lui, il va te dire, mais va bosser comme une chienne, toi aussi, jusqu'à 2h du matin. Après, on va discuter. Donc, lui, il dit, bon, déjà, tu ne travailles pas. Déjà, tu pourrais dire, ben, ton job, moi, je fais mon job, je te ramène la Parnassa. Attends, je te. Non, mais. Jennifer. Moi, je te dis comment lui réfléchit d'abord, pour qu'on déjà on comprenne la situation. Donc, il se dit, lui, alors, lui se dit, déjà, elle ne bosse pas. Donc, déjà, moi, je fais mon job. Elle, son job, c'est de s'occuper de la maison. C'est de s'occuper, c'est la normalité que tu t'occupes de ta maison, ton ménage, tes enfants. Attends. Et il se dit, en plus, qu'est-ce que je fais? Je suis large. Je suis un homme extraordinaire. Je t'ai mis quelqu'un à la maison. Ça veut dire, Yanni, non seulement tu fais rien, mais tu vas faire doublement rien. Attends. Donc lui se dit, bah, plus que mon job. Elle est, je suis le meilleur des maris. Lui te dit, je suis le meilleur des maris. Je l'ai complètement soulagé. D'accord? Bon, ça c'est ce dit. Et quelque part, on pourrait dire, bah, il a raison. Maintenant toi. D'accord.
Attention, je ne veux pas qu'il m'aide. Je veux que quand j'ai besoin, de temps en temps, si je suis un peu fatiguée ou je suis un peu à droite, à gauche, qu'il m'aide.
Mais alors,
avec ses enfants.
Attends.
Une connerie, j'ai une migraine depuis une semaine. D'accord. Mercredi soir, je me suis endormie, je me suis endormie vers 3 heures comme ça. Et pendant peut-être 3 quarts d'heure. Mais c'était l'heure d'aller chercher le petit à 4 heures. D'accord. Donc, je me suis réveillée. Lui, il était à côté de moi, en caleçon, en train de regarder le match de foot avec un autre gosse.
Comme tous les maris.
D'accord. Il me voit que je suis ras la jetée, j'ai mal à la tête. Il me laisse me lever pour aller chercher le petit. Tu peux
peux pas te lever, prendre la voiture, aller chercher.
Tu sans jamais sans que tu lui demandes, parce que ça, sans, les hommes ne font jamais rien sans qu'on leur demande. Ouais,
alors, alors voilà, moi je te parle, tu lui as dit. Mais attends, attends, tu lui as dit.
Mais
Jennifer, Jennifer, mamie.
Mais quand je suis partie, je lui dis, je vais
envoyer.
Mais
non,
tu m'as laissé. T'aurais dit que tu m'as laissé me lever dans l'état dans lequel je suis, t'es allongée, tu fais qu'est-ce qu'elle m'a dit, mais excuse-moi chérie, j'étais sûre que t'avais des trucs à faire, sinon tu m'aurais dit.
Mais c'est sûr,
Jennifer, Jennifer, regarde, regarde. De la même manière, de la même manière que lui. Il pense qu'il est au top parce que tu ne bosses pas et qu'il t'a mis une femme à la maison. Mais il, c'est sa manière de penser. C'est comme ça qu'un jeune, il fait des hommes. Que tu vas discuter là-dessus. Lui, il pense comme ça. Tu dois te dire, mais ce qui est évident pour moi ne l'est pas pour lui. Tu vois bien. On pense différemment. Si tu lui avais dit, chérie, je suis très fatiguée, j'en peux plus. Et qu'il te dit, rien à faire. Bon, là, tu peux venir discuter. Mais tu ne parles pas.
Ouais, parce que moi, j'aime pas demander. Non,
mais pourquoi tu n'aimes pas demander?
Donc, moi, c'est ce que je te disais. Je pense que j'ai jamais tout fait. J'ai jamais rien demandé.
Mais donc.
Je n'ai jamais un
cul dans l'intérieur.
Oui, mais regarde, Jennifer.
Il y a une souffrance dans la vie tous les jours. Mais il y a des fois que ça m'énerve.
Mais Jennifer. Oui, mais Jennifer.
C'est tous les hommes. Ils ne comprennent pas si tu leur dis pas. Moi c'est pareil, je peux lui laisser les enfants, il va pas penser à donner à manger.
C'est ça.
Mais parce que si je lui dis tiens, tu vas aller acheter un truc à manger, c'est l'heure de déjeuner, je suis pas là. Oui, ah ouais, d'accord. Genre, il sait pas qu'il y a des enfants, ça mange, tu vois. Mais c'est ça, c'est comme ça, c'est leur
mode
de
vie. C'est tout le monde comme ça. Il n'a pas ton esprit, et heureusement.
À chaque fois que je mets rien, c'est que pour des trucs.
Mais Jennifer. Mais regarde, Jennifer.
Le vendredi matin, il travaille pas, parce que c'est son seul jour de congé.
Donc, qu'est-ce qu'il se dit?
Donc, c'est son seul jour où vraiment il est
détente.
Il chauffe les trucs.
Donc lui, pour lui, c'est son jour de congé.
Bah, je lui ai demandé une fois d'acheter un fait pour Shabbat. Il me fait une erreur. Mais tu te fous, ma gueule. Toute la semaine.
Et oui.
Tu peux préparer.
C'est ça ce qu'il se dit.
Ah, ouais, d'accord, en vacances, je viens de faire
84. Moi, ça, c'est
pas vrai. Pourquoi tu m'envoies vendredi? J'étais ma tête, je vais me faire ça. Je l'avais pas.
C'est parce que, encore une fois, Jennifer, je vais t'expliquer quelque chose. Il faut, pour éviter ce genre de situation, parce que c'est des situations bêtes en réalité, mais c'est classique, tout le monde passe ça.
Mais pourquoi il pense qu'être à la maison, c'est ne rien foutre?
Non, elle n'est pas seulement à la maison. Elle est à la maison et elle a quelqu'un.
D'accord, j'ai quelqu'un.
Mais oui, mais.
Tu comprends ce que je veux te dire?
Mais c'est qu'en vrai, il faudrait les laisser une semaine seule, comme ça ils.
Mais lui, justement.
Elle cuisine, elle s'occupe de mes gosses. Dieu bénisse les crises d'adolescence de tous les âges. J'ai 2 ans, 9 ans, 16 ans, 14 ans chez
toi. Ils sont ados à 2 ans chez toi?
Elle parle français, donc elle parle avec personne. Donc je gère moi les crises, lui, au courant de rien du tout.
Mais peut-être que justement, mais moi je pense que tu fais une erreur, Jennifer, d'épargner. Jennifer, moi je pense que tu fais une erreur de ne rien dire.
Mais ça me fait de la peine pour lui. Je me dis, je vais pas lui rajouter des histoires de
caca. Oui, mais regarde, Jennifer, sans te rendre compte. Jennifer, écoute ce que je te dis, sans te rendre compte, tu ne te rends pas compte aujourd'hui parce que tes enfants sont petits, mais sans te rendre compte, tu es, de par ton silence, de par j'ai de la peine, je ne veux pas lui rajouter, tu es en train de créer un fossé. Mais non, il est ton associé. Tu comprends, tu t'imagines si quand tu... Le simple fait que... Mais tu lui dis pas? Pourquoi?
Mais c'est pas le fun, il va pas venir.
Je vais lui rajouter un problème.
Mais d'abord, qui te dit que ça va l'angoisser? Peut-être que tu sais, les maris, ils sont pas du tout angoissants.
Si c'est pour les grands, ça l'angoisse. Les petits, un peu moins. Mais les grands,
c'est pas
grave.
Écoute une chose. Lui, écoute, Akadosh Baruch Hu, s'il a fait qu'on est deux. S'il nous a mariés, d'accord, et qu'on est deux pour faire une famille, c'est pour affronter et pour pouvoir se soutenir l'un à l'autre. Quand on est deux, on est beaucoup plus fort que quand on est seul. Tu prends toute la charge sur toi, donc automatiquement, ça t'affaiblit. Psychologiquement, tu es épuisé. Tu n'en peux plus. À un moment donné, tu dis, mais j'éclate. Et tu t'énerves contre lui, que lui, maintenant, il n'est même pas au courant.
Des fois, je découvre les enfants, justement. Je ne dis pas tout pour ne pas qu'ils s'énervent avec lui.
Et tu fais une erreur. Parce que s'ils avaient peut-être la présence du père un peu plus, peut-être les enfants, ils réagiraient différemment. Tu comprends ce que je veux te dire? Un enfant, il doit ressentir, il y a papa et maman ensemble. Il n'y a pas... bon, de toute façon, papa...
Il est... Psychologiquement, quoi? C'est bien de se décharger un peu sur son mari.
Mais bien sûr. Angoissé,
mais juste qu'il participe, et d'un coup, tu te sens un peu plus légère.
C'est évident.
On est à deux, quoi. Ça
même lui, au travail, dans le travail.
Et eux, ça
ne
va pas
tellement passer.
Lui, il
ne
les voit pas tellement.
Là.
Mais c'est pas grave. Oui, mais justement, comment il va faire le kécher? Comment il va faire le lien avec ses enfants si tu ne lui dis pas? Jennifer, comment il va avoir le lien avec ses enfants et avec sa maison?
Il a un très bon kécher avec les enfants.
Oui, mais... Oui, mais quelque part, tu n'es pas capable de tout supporter toute seule. Tu n'en peux plus à la fin, tu comprends? Tu te dois...
Des fois, je lui dis, cette fois,
Moi, je te dis une chose, Jennifer. Tu vois, le fait que tu ne parles pas avec ton mari, le fait que tu fais les choses et après tu t'énerves, oui, tu aurais pu te lever, oui, mais lui, il n'est pas là-dedans. Donc, tu développes un Ainra sur lui.
Mais quand je lui raconte des trucs, il me dit, voilà,
bah oui, mais tu lui, peut-être que toi, tu dois lui dire aussi dans ces cas-là, écoute, tu sais quoi? En réalité, je ne cherche pas une réponse chez toi. J'ai juste besoin de sentir que tu es avec moi. Tu sais quoi? Ta force, ça va me donner de la force. Tu crois que quoi, moi, quand je raconte des choses à mon mari? Moi, des fois, je raconte des trucs avec mon mari. Je sais déjà, mais je lui dis, Dophie, je lui dis, regarde, j'ai juste besoin de te dire. Ça va me... J'ai raccroché. Maintenant, il ne m'a rien dit. Mais je sens que tu vois, je suis plus toute seule. On est ensemble.
Des fois, je me dis, il y a tellement de trucs dans ta tête.
Mais toi aussi, t'as plein de choses dans ta tête. Écoute une chose, toi aussi, t'as plein de choses dans ta tête. C'est ça, à la limite. Tu sais, il y avait la rabbanite Margalit, la femme du Rav Ovadia Yosef, la femme de. Du Rav Eliashiv, ces femmes-là, tu vois, ces grandes dames. Bon, c'était des femmes, mais quoi, mourantes. Elles allaient seules, elles faisaient tout toutes seules. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de la femme du Rav Ovadia Yosef, mais vraiment, je vous conseille d'aller lire ce livre. Ah, mais c'est un livre magnifique. Je crois que c'est Margalit. Oui, c'est en français, Margalit, je ne sais plus quoi. Oui, vous demandez la vie de la femme du Rav Ovadia Yosef. D'abord, tu apprends, mais c'est quoi? Attends, tu te dis, waouh, quel niveau? Quel niveau? Alors oui, ces femmes-là, elles déchargeaient, comme le mari d'étudier la Torah, elles étaient pour elles le déchargeaient complètement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout, le niveau, tu vois, la daga, ni des enfants, ni des ceci, rien. Mais, attends, Jennifer, c'était des femmes, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas nous. Bon, c'est pas nous, tu comprends? Donc, nous, on doit se dire, c'est soit tu dis, voilà, moi, je prends tout sur moi, mais je développe pas du Ainra sur mon mari. Je développe pas des mauvaises pensées sur mon mari. Tu comprends? Je prends sur moi, donc, moi, mon mari, c'est Bessader, il est à Col Bessader. Mais si je suis pas capable, mon mari, il a de la peine. Tu sais, le mari, s'il savait des fois qu'on pense mal sur eux, il dirait, mais pourquoi tu penses comme ça? Ouais. C'est sûr que tu as une mauvaise pensée.
C'est très ponctuel, ça veut dire dans ma vie de tous les jours, ça ne m'handicape pas. Mais je me dis, je fais tellement tout pour le soulager, pour ne pas qu'il
ait préoccupation.
Mais du coup, quand j'ai besoin de lui, tu sais ce qui a marqué présent, tu sais, Jennifer, ce qui a marqué, Jennifer, tu sais ce qui a marqué? Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, quand tu lui fais une tova, quand tu lui rends un... tu dois lui dire. Parce que la personne en face, elle ne le sait pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Toi, t'as rendu un service. Toi, t'as pris sur toi quelque chose. Donc, t'as fait quelque chose, d'accord? T'as pu aller au-delà de tes limites, t'as pris sur toi pour rendre un service, t'as fait. Toi, automatiquement, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Tu attends, c'est inconscient, mais c'est comme ça. Tu attends un feedback. C'est la normalité, c'est comme ça qu'on est. Qu'est-ce qu'on va faire?
C'est pas un retour.
Un retour! Ça veut dire, alvaï, tu comprends qu'on soit complètement détaché, qu'on dit, moi j'ai tout fait, Rina, mais alvaï. On aspire à ça, mais on n'y est pas. D'accord? Donc automatiquement, quand toi maintenant, D'accord ? Tu attends quelque chose au fond de toi. Et que la personne, elle n'est pas au courant. Tu vas t'attraper la crise de nerfs. Ben, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est comme un enfant. Toute la vie, tu lui as donné quelque chose. Et un jour, tu dis, mais ce quelque chose, tu as vraiment travaillé pour le faire. Tu as lutté. Et un jour, tu dis, non, je ne veux plus donner. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une crise, il ne va pas comprendre. Il va dire, mais pourquoi tu ne me donnes pas? Mais c'est normal que tu me fais. Pourquoi? Parce que toi, tu ne lui as jamais dit, tu sais, chérie, c'est dur ce que je fais, mais je le fais. Parce que je t'aime, parce que je veux te faire plaisir. Il faut le dire. Ton mari, par exemple, quand, je ne sais pas moi, tu lui enlèves des angoisses, tu dois lui dire, tu sais, chérie, j'ai eu plein de choses aujourd'hui. Si c'est avec celui-là. Mais tu sais, je n'ai pas voulu t'appeler aujourd'hui, je n'ai pas voulu te déranger parce que je sais que tu travailles, parce que je sais que ça t'angoisse. Il apprécie au moins. Tu comprends? Mais il ne peut pas apprécier une chose qu'il n'a pas connue. Regarde, je vais te donner un exemple très, très... Là. Nous, on doit... Maintenant, on est dans les 3 semaines. D'accord? Entre Yudzayin Betamouz et le Betamik. Donc, on est dans ces 3 semaines, d'accord? On est censé, entre guillemets, porter quand même le deuil du Bet Amigdash. Je te pose la question. Tu arrives à porter le deuil du Bet Amigdash que tu sais même pas ce que c'était? Que même pas, on n'arrive pas. On ne peut pas porter le deuil, d'accord, pour quelque chose qu'on n'a pas connu. Un enfant qui a l'Oalénou... Jamais sur nous, sur personne. Un enfant qui n'a pas connu sa mère ou son père à la naissance parce qu'il est mort, il peut porter le deuil? Il ne peut pas. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, ton mari, notre mari, nous toutes, d'accord? Si tu ne dis pas ce que tu fais, il ne peut pas savoir parce que justement, il vit dans un autre monde. C'est comme un mari, par exemple, qui ne va jamais raconter à sa femme ses problèmes de travail. Le mec, il va se taper la tête contre les murs. Il a des histoires mipo adoda hadasha, d'accord. Et j'en connais un des comme ça. Moi, des fois, ils viennent chez moi, ils sont dans la rosra, et je dis, votre femme, elle est au courant? Non, je ne veux pas lui dire. Je veux la préserver. Mais la femme, elle n'est pas au courant. Elle ne sait pas tout ce que son mari passe. Elle ne sait pas toutes les rosra qu'il s'est pris dans la journée. Donc, elle... Mais même pas elle apprécie. Même pas elle se dit, regarde mon mari, comme il est gentil, quel tzaddik, il me préserve, il fait attention à moi, j'ai un mari, c'est extraordinaire. Elle se dit pas, pour elle, son mari, c'est rien. On se doit de partager, de communiquer un minimum. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le mari, qui a voulu Zarma protéger sa femme, mais que sa femme, donc lui, il se dit, je la protège, donc, elle se doit d'être parfaite. Mais elle ne sait pas qui la protège. Donc, elle n'est pas parfaite du tout. Elle est lourde, elle se plaint, elle fait ça. Donc, voilà, d'accord? Ça, c'est la femme. Le mari, automatiquement, il va développer des mauvaises pensées sur sa femme. Il va développer le haïnra sur elle, d'accord? Et ça, automatiquement, ça va développer, tu vois, des esprits de rancœur. Cette rancœur, elle va t'emmener à la vengeance. Même des petits trucs, je ne ferai pas. Tu sais quoi, il m'a énervé la fois, je ne lui ferai pas. Voilà. Combien de fois ça t'est arrivé? Tu sais quoi, il m'a énervé, je ne lui ferai pas. Mais si tu ne fais pas, tu ne fais pas pour toi, ça veut dire, on est dans le même bateau, de quoi tu me parles? Donc ça, c'est le mari. Donc automatiquement, il y a un fossé qui est en train de se créer. Et la femme, elle prend sur elle, et elle dit non, je ne vais pas dire à mon mari. Elle prend sur elle. Donc elle se dit, mais attends, avec tout ce que je prends sur moi, c'est normal que quand il me voit dormir et que je me suis réveillée à 30 secondes, d'accord, du gan, et que j'ai une rosra et que je suis fatiguée, c'est normal qu'il se lève d'un bond, qu'il va me chercher les gosses. Mais lui, il ne sait pas. Donc toi, automatiquement, pareil, tu crées comme ça, d'accord, ce fossé. Mais tu te rends compte quand tous les deux, on garde comme ça sur nous et on répète, on ne veut pas dire et on ne veut pas s'exprimer. Regarde ce qui se passe. Tous les non-dits et toute la souffrance que ça engendre, les filles. Parce qu'on ne se rend pas compte. C'est des petites choses, comme tu dis, d'accord? Mais c'est des petites choses qui font notre quotidien. Et c'est des petites choses qui nous rendent tristes, qui, tu vois, nous enlèvent des fois le réchec, l'envie de s'occuper de notre maison, l'envie de se donner à 100%, l'envie d'être là. Parce que quoi? Parce qu'on est déçus. parce qu'on est déçu, parce qu'on se dit, mais attends, mais jusqu'à quand? Combien de fois tu as des femmes qui arrivent comme ça, 40 plus, et elles te disent, mais attends, je suis écœurée. T'es écœurée de quoi? J'ai donné ma vie, j'ai tout donné, j'ai tout fait. Et regarde le résultat. Mais est-ce que quelqu'un... Hein? Il y en a plein. Mais attends, et t'es en dépression? T'as des femmes, elles arrivent. Mon mari est gentil, mes enfants, ils sont gentils, ça, gentil, ça. Mais la photo, elle a l'air magnifique. Et pourtant, la fille, elle est en dépresse. Pourquoi t'es en dépresse? Il y a un problème. Qu'est-ce que t'as? Ben, elle est tellement... Elle a rien dit toute sa vie. Tellement elle se l'est fermée. Que même elle, elle sait même plus où elle en est, en fait. Elle s'est enfermée dans un mensonge. Et attention, et ça c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Tellement tu parles pas, tellement tu veux paraître bien, tellement tu veux être super, tout le monde, tellement tu vois la photo, il faut qu'elle soit tout comme il faut, parfaite. Toi-même, tu t'es enfermée dans ton mensonge. Et quand on vient, on te dit, dis-moi mamie, pourquoi ça va pas? Pourquoi tu es dépressif? Pourquoi tu es pas bien? Ben, je sais pas. Comment ça tu sais pas? Si tu es censé, si tout ce que tu me dis, ça paraît extraordinaire ta vie, et que t'es en dépression, c'est qu'il y a quelque chose au fond de moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tellement tu t'es menti à toi-même toute ta vie, d'accord, que toi, maintenant, tu ne sais plus où tu en es. Va maintenant faire le travail. Va sortir toutes les poubelles. C'est un travail de fou. La personne, elle ne veut pas. La personne, elle n'est même pas capable. Faut vraiment une volonté de faire pour sortir de ça. Tu comprends? C'est pour ça qu'on se doit de parler. Si Akadosh Baruch il nous a donné la bouche, il nous a donné ce moyen de s'exprimer, et qui dit il faut parler, c'est la base. Hein? Non. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Bonjour, comment tu vas? Le quart d'heure qui reste, c'est pour toi, j'en suis sûre. Assieds-toi. Le fait, si tu parles à chaque fois, et encore une fois, on ne parle pas à chaud, on ne parle pas quand ça va mal, d'accord? On parle quand justement on s'est calmé, mais que tu dis, regarde, là tu m'as vexé, là ça m'a fait mal, là ça m'a... Tu vois, automatiquement, la personne, elle sait où on en est. Un cas comme toi, par exemple, Jennifer, pour ton histoire, tu vois, moi j'ai envie aussi quand même de te dire une chose. Des fois, tu sais, on n'a pas envie que notre mari nous aide pour nous aider. Ah, c'est moi. Je m'en sens. Des fois, on a envie que notre mari nous aide. Mais voilà. Mais pas parce qu'il nous aide, parce qu'en réalité, bon, ben ça va, tu peux le faire, il y a tout. C'est parce que quelque part, pour toi, cette petite attention, c'est aussi une marque d'amour. C'est quelque part, c'est une façon de te dire, chérie, je t'aime.
Ah ouais, ce qui m'énerve aussi, c'est que si j'étais mourante, mais que je n'étais pas dans une mauvaise période, il aurait tout aidé, je pense.
Ah.
Avant que je me dise de répéter, il aurait compris.
Ouais. Ça veut dire que, voilà, il y a cette situation qui fait qu'on a très souvent, d'accord, alors, ça, je vais te répondre à cette histoire. Très souvent, on a la sensation que quand on est Nida, quand on est donc impur, d'accord, les maris, pitom, ils sont plus du tout attentionnés. Hein? C'est pas complètement faux.
Alors il ressent ça et du coup ça dévoile aussi.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser la question, est-ce que nous, quand on est Nida, dans notre tête, regardez, réfléchissez, d'accord? Est-ce que quand on est Nida, inconsciemment, dans notre tête, est-ce que nous aussi on n'a pas une petite coupure? Inconsciemment. On ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire qu'il y a un changement d'attitude chez nous aussi. Réfléchis. Tu sais quoi? Essaye. La prochaine fois, réfléchis. C'est pas voulu, hein? C'est pas toi qui détestes. C'est-à-dire que si tu veux, le fait que toi, maintenant, tu as cette histoire qui y arrive, il y a quelque part une sorte de coupure qui va se passer. Tu comprends? Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi? N'oubliez pas une chose. Les couples qui font la tarat amishpacha, vraiment. D'accord, ça veut dire il y a même pas un bisou, on se touche pas en rien. Ceux qui font vraiment la tarata mishpacha, ok? Tu crois que c'est pas difficile pour ton mari?
Ah bah,
Attends, moi je vous pose maintenant la question, d'accord ? Est-ce que quand on est Nida, est-ce qu'on fait attention à sa manière de s'habiller ?
Oui.
Quand on ne fait pas très attention à la tsniout. Je parle maintenant pour les femmes qui ne font pas très attention à la tsniout. Est-ce que tu fais attention ? Est-ce que tu mets une importance de dire je vais faire très attention à ma manière de m'habiller ?
Tu veux dire pour tous les jours, pendant tout ça ?
Non, je veux dire rester pudique devant
lui, devant ton mari. Ton mari, regarde, ton mari, d'accord, t'es Nida ou t'es pas Nida, quand ça fonctionne bien dans un couple, il a envie d'être avec sa femme, d'accord. Quand maintenant t'es Nida, lui, il est en train de mourir, bon, parce qu'il se dit, il n'y a plus. Bon, maintenant, est-ce que tu comprends que si toi, tu t'habilles de la même manière, par exemple, la fille, elle se met, je sais pas moi, des petits shorts, des petites misettes, elle se met en maillot, bien sûr que ça sourd. Baruch HaShem, tu es venu que pour ça aujourd'hui.
Voilà.
Comment ? D'abord, il n'a pas le droit. Un homme, quand il a sa femme qui est Nida, la halakha, c'est qu'il n'a pas le droit de voir la herva de la femme. C'est quoi la herva de la femme ? C'est la nudité. C'est quoi la nudité ? C'est pas que ça. La nudité de la femme, c'est à partir, c'est les 6 points. D'accord ? C'est après les coudes, les deux os et les genoux. Il peut voir les gens.
Tu es dans la rue, quoi, chez toi, avec ton mari quand tu es Nida.
Bidouk. Voilà. Il n'a pas le droit de regarder. D'accord ? Donc, imagine maintenant. L'homme échané, si vous ne le faites pas. Regarde, les filles, chacune comme elle peut. Mais maintenant, peut-être ça va nous donner une façon de réfléchir différemment. Donc, regarde, si maintenant ton mari, d'accord ? Toi, tu t'habilles comme tu t'habilles. Et lui, il sait qu'il n'a pas le droit. Alors, ça met un peu, tu vois, des fois les nerfs. Des fois, il peut, tu vois, il ne veut pas te dire oui. C'est comme si, il fait une petite distance comme ça. Parce que c'est dérangeant pour lui. Moi, je me rappelle de ce fameux couple. La fille, elle me dit, oui, il est tout le temps derrière moi quand je suis Nida. Le pauvre, il était religieux, le garçon. Il a eu honte. Et il m'a dit, mais écoutez, il m'a dit... Elle s'habille. Il m'a dit, mais comment je peux faire pour résister ? Il m'a dit, je vais devenir fou, les trucs, les machins, de tous les côtés. Il m'a dit, je ne sais plus où mettre ma tête. Tu comprends ? Alors, c'est elle te dit, la fille, elle me disait, comme par hasard, chaque fois que je suis Nida, il devient mauvais. C'est pourquoi ? C'est parce qu'en réalité, lui, il avait les nerfs, parce qu'il sait qu'il ne peut pas la toucher. Alors, il essaye, il devient mauvais, et après, il la touche. Tu vois, tu rentres dans un engrenage. Maintenant, si Bémet... Toi, tu sais clapper Shamaim, que tu fais attention à ta tsniout, que tu fais quand même ce qu'il faut et que malgré tout, tu ressens qu'il y a une distance, tu dois aller le voir, ton mari. Tu lui dis, écoute, moi, je souffre de cette distance. Et je souffre du fait que quand je suis Nida, je ressens comme si que... Je sais pas, comme si qu'il y avait un manque d'attention. Tu lui dis, je comprends qu'on peut pas être aussi proche. Je comprends qu'on va faire, attention pour pas éveiller des envies. D'accord ? Je comprends ça. Mais entre faire attention et ressentir, d'accord ? Le fait que, Bichlal, moi je ressens que tu t'en fiches complètement, il y a une grande différence. Tu vois, là aussi tu peux parler, là aussi tu dois dire au mari, moi j'ai besoin de sentir que malgré tout on est mari et femme, malgré tout on est des chavérim, malgré tout on est là, on essaye de rechercher la présence de l'autre, on discute, il faut lui dire.
Je peux te poser une question, je m'excuse si c'est un peu con. Mais par exemple, quand tu es Nida avec ton mari,
oui.
Tu dis donc il faut être bien habillé et tout. Mais t'as pas le droit de genre. Enfin, on se touche pas à rien, quoi. Tu vois, complètement, on partage pas le même verre. Mais t'as pas le droit de faire un petit chauffage, un petit truc, genre. Pour pas entretenir pendant ces deux semaines, quoi.
Pas du tout.
Arrête.
À sourd.
Non, mais rien, genre, tu fais genre je te touche.
Rien. À sourd. Quand tu touches ton mari...
Non, je ne touche pas.
Oui, tu essayes.
Pour entretenir cette flamme, voilà, tu ne touches pas.
Je pense qu'il
n'a
pas besoin d'entretenir. Enfin, si
regarde.
C'est pas ça, c'est que tu chauffes, il ne peut pas aller au bout. Tu t'imagines
non, mais rien chauffer. Je te dis, on ne touche pas, on ne partage pas la merde. T'as compris, chauffer. Le chauffer, c'est genre, tu t'approches et tu fais... Ouais, t'es beau gosse. Juste un truc comme ça, tu vois, pour entretenir...
À sourd, je vais te dire quelque chose.
Pour lui montrer que même toi, c'est compliqué.
Je vais te dire quelque chose.
Hein? Oui, ils ont peur qu'on en ait parfait, ils veulent avoir peur qu'on
en ait
rien à faire.
Bah justement, c'est pour ça que tu peux venir.
Pendant 15 jours, tu vois,
c'est pour ça que tu peux aller le voir et lui dire, écoute, je veux que tu saches, c'est une période qui est aussi difficile pour moi. Parce qu'à ce moment-là, ben voilà, ne pas être dans tes bras, ne pas sentir que je peux me rapprocher. Tu le dis, tu vois, mais je veux quand même que te dire la halakha, d'accord ? Après, chacun y prend comme il veut, mais c'est Romer la Marchava. Pendant cette période, à tel point que tu n'as pas le droit de le chauffer ou n'importe quoi, on fait attention de ne pas se dire trop de mots d'ivrée riba, tu vois, des chéris et des machins, d'accord ? On fait attention de ne pas, par exemple, aller se balader dans des jardins un peu vides, tu vois, un peu romantiques. Tu vois ce que je veux dire ? Pour te dire à quel point... Voilà, pour te dire à quel point il faut, tu vois, mettre une petite distance, parce que justement...
Mais je pensais qu'il fallait aussi entretenir la flamme, quoi.
Non. Non, tu n'entretiens rien parce que...
Sans enfreindre aucune... Enfin, pour moi, ça n'enfreignait aucune règle parce que...
Toi...
On se jamais... On
alors, attends, dire, toi... Mais est-ce que tu sais, lui, les pensées qu'il a ? Quand une femme, elle commence à chauffer son mari, qu'est-ce que tu crois ? Il y a marqué qu'il n'a pas le droit... Il n'a pas le droit de... Oui, oui, j'ai compris que c'est léger. Non, mais écoute... Attends, regarde, Cécile. Imagine qu'il y a marqué...
Aucune de nous qui peut s'imaginer... Ce que tu dis, que dans quel état il est l'homme.
Voilà,
ouais,
c'est
ça.
C'est ça.
On fait ça, en fait, c'est de façon innocente.
Tu lui dis, passe-moi le sel. Il te dit non. Il pose la salière. Tu dis, c'est pas possible.
Non, parce que c'est pas ça.
Alors, tu dis quoi ? Une salière, ça va te faire...
Non, parce que là, l'Alacha... Attends, parce que là, l'Alacha...
Passe-moi le sel. Le mec, il ne veut pas te passer le sel. Tu poses la salière sur la table. Tu dis, c'est pas possible.
Alors,
quel degré c'est ?
Non, attends. La halakha, je vais t'expliquer. C'est que, justement, Chachamim, ils ont mis des barrières pour qu'on n'arrive pas à... Tu vois, c'est du sel, on va passer à un verre, et le verre, on va passer au vin, et on ne sait pas où on va arriver. Écoute une chose, regarde. Regarde, je vais te raconter cette histoire, d'accord ? Il y avait un couple dont le mari, il était mort très jeune. Et la femme, elle allait... Et elle pleurait dans toutes les bêtes Knesset. Elle disait, elle montrait les tefillines de son mari. Et elle disait, on dit que c'est la longévité de l'homme. Et mon mari, il est parti jeune. Et personne ne savait quoi lui répondre. Parce que son mari, Bémet, c'était un Talmid Chacham, c'était quelqu'un de gadol. Un jour, il y a Eliyahu Hanavi qui lui a dit, viens ma fille, je veux te parler. Et là, il a commencé à lui poser la question. Il lui dit, dis-moi, comment vous vous comportiez pendant tes menstrues ? Razvé Shalom, jamais ça lui serait venu à l'idée, ni de me toucher, ni de ceci, ni de cela. D'accord ? Et à un moment donné, il lui dit, et pendant ta période, comment vous dormiez ? Et là, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle lui dit, on dormait dans le même lit, mais Razvé Khalila, on était habillés l'un et l'autre, et il y avait un traversin entre les deux. Et il y a Wanavi qui lui dit, alors il valait mieux qu'il parte ton mari, parce que chaque minute qu'il était comme ça, c'était des avérotes qui prenaient sur lui. Tu vois, ça c'est toi tu me parles du sel. Ça veut dire que si les Chachamim, d'accord, ils en sont arrivés à mettre des barrières, c'est parce qu'il y a des gens beaucoup plus grands que toi et moi qui sont tombés. Tu comprends ce que je veux te dire ? C'est pas pour rien, c'est pas parce qu'ils t'aiment pas. Par contre, toi tu dois lui dire... Toi, tu dois lui dire, chérie, je comprends que de me donner le sel, c'est qu'on... Sois un peu plus doux, sois un peu plus comme ça. C'est difficile pour moi, c'est une période... Qu'est-ce que vous avez là-bas ?
Excusez-moi, il y a la partie.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, je viens, j'avais raconté l'histoire de mon lit.
Non, je ne me rappelle pas, vas-y.
J'avais dit que quand j'ai vécu 12 ans à Paris,
oui.
De faire la vie.
Oui.
Depuis qu'on s'est marié, on avait acheté un lit qui ne se sépare pas.
Baruch Hashem.
Et je ne sais pas ce qui nous est arrivé quand on a fait la lien, on a acheté un lit qui ne se sépare pas.
Alors, non, j'ai oublié. Donc vous êtes dans un lit qui ne se sépare pas.
Ça y est, depuis Rosh Hashanah, j'ai enfin trouvé la solution parce que c'était un lit en plus encastrable. T'as compris ? Je ne sais pas ce qui me plaît vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé.
Bon, Michel, bon, écoute.
On disait, bon, il est grand le lit, on a des cousins.
Ah, ben tu vois, voilà.
Et depuis que j'ai déménagé à une nouvelle maison, j'ai dit à Yon, il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous sépare celui qui le. Et j'avais pareil, pas de matelas ni rien.
Ouais.
Et c'est que depuis Rosh Hashanah.
Ah, bah, au Hachem.
Mais c'est resté 5 ans.
Bon, bah, au Hachem, que tu as fait tchouva.
Et je savais, à chaque fois, je me dis, putain, c'est grave, c'est pas bien. Et il dormait après, il a fini par dormir dans une autre chambre. Et tu m'avais dit.
C'est un sourd.
C'est de ce cours-là.
Le couple ne doit pas se séparer.
Je trouve que quand tu fais du dab, moi je le fais très bien. Mon mari est très strict. Je trouve que ça. moi, ça me repousse. C'est-à-dire, je suis carrément cette manière qu'il est devant moi pendant cette période, c'est-à-dire strict, il est là, passe-moi le sel. Ça me rapproche pas du tout de lui.
Très bien. Regarde. Je pense que tu dois avoir une vraie discussion avec ton mari pour essayer de comprendre son malaise.
Non, c'est une manière de le dire.
Non, mais
peut-être
qu'il sent que moi je peux pas plancher.
Oui, mais lui. Et lui.
Tu n'aimes pas ce risque d'évoluer
dans la vie. Non, mais c'est un comportement, mais même physique, c'est-à-dire. Tu vois dans son regard. Tu vois dans son regard que c'est. Ça y est, on est leader. Toi, t'es là, moi, je suis là. Et ça te.
Alors, toi, alors, je te comprends, mais je comprends très, très bien ça.
C'est frustrant. Ça veut dire quoi? On n'est plus leader. Bon, ben.
Il faut que tu lui dises à ton mari, il faut que tu parles avec ton mari et que tu lui exprimes, tu lui dis, tu sais, Nida, c'est pas fait pour nous séparer, d'accord, dans nos têtes, merci Hachem, c'est pas fait pour nous séparer dans nos têtes ou quoi, c'est, tu dis, je reste ta femme, tu restes ton mari, mon mari, on peut rester courtois, on peut parler, on peut discuter, après peut-être que lui va te dire, sache que pour moi, Nida, c'est très dur. Je vais devenir dingue. Ça se trouve, c'est tellement dur pour lui de savoir qu'il ne peut pas être avec sa femme qu'il devient mauvais. T'en as plein des hommes comme ça. Moi, j'en connais plein des comme ça. Qui te disent, je ne supporte pas. Mais il sait que c'est assourd. Donc,
non, moi, je me renferme sur moi-même. Moi, je sais.
Oui, mais ce n'est pas bon. Toi, tu te renfermes trop.
Mais à un moment donné, une fois, je lui ai dit, je vois que le mec reste...
Regarde. Oui, mais il faut pas, parce que là, tu es en train de te créer, d'accord. Il faut que tu ailles le voir quand tu es d'abord Théora, pas quand tu es Nida. Et que tu lui dis, écoute, chérie, va, prends, invite-le un petit café, une petite glace ou quoi. Tu dis, viens, je vais t'inviter une petite glace. Vous vous asseyez. C'est vrai, c'est sympa, tu sais, de dire à son mari, viens, je t'invite, on va manger une glace. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, c'est sympa. Hein? C'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? C'est le même argent de toute façon. Qu'est-ce que ça change? On s'en fiche, le fait c'est d'avoir dit viens, je t'invite. Ben voilà. Et tu lui dis, regarde, je voudrais te parler de quelque chose qui me fait souffrir. Moi, je t'aime et je suis ta femme et je veux qu'on soit bien.
Je l'aime pas.
Ben, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je t'ai dit.
Je le déteste même.
J'ai compris que tu le détestes.
Ça veut dire que ça me répugne.
J'ai compris.
Je vois ce comportement. Je dis, mais c'est pas possible.
Alors moi, je vais aller plus loin. Si tu le détestes, ça veut dire que même quand tu es Théora, tu n'arrives pas à te remettre dedans. Parce que tu restes avec ça. Mais c'est normal, elle est humaine.
Attention, il change quand on est. Ça veut dire. Après, il est très tendre, très affectueux.
Oui, et mais toi, tu arrives à revenir, toi?
Oui, j'arrive à revenir avec du temps.
Voilà.
Mais son comportement, le changement dans cette période, elle est pour moi...
Alors, tu vas lui dire, chérie, j'aimerais me donner à toi beaucoup plus.
Non, mais c'est pas pour ça qu'il fait ça. C'est parce que lui... C'est comme dans
la notion de la gravité.
Voilà.
Oui. Alors, il faut que tu lui dises, j'ai besoin pour être mieux moi-même, d'accord? J'ai besoin que tu m'expliques, en fait, tes difficultés. J'ai besoin que tu m'expliques pourquoi, de ce moment-là, c'est comme si qu'on devient... J'ai l'impression qu'on devient ennemi. Voilà, dis-lui, j'arrive pas. Tu dis qu'on se...
Je suis pas en train de l'attirer, même vestimentairement, pas du tout. Je suis très stylou, je reste à ma place. Il y a des filles qui mettent des shorts, comme vous dites. Non, moi, je reste stylou, je reste bien, je ne l'attire pas au niveau des yeux et tout, mais je trouve que...
Moi, je te dis, assieds-toi... Et essaye de discuter avec lui, de comprendre ses difficultés. Si ça se trouve, il va te parler de choses que Bichlal, toi, même pas, tu avais pensé que ça pouvait exister.
Non, moi, faut pas
entendre
ça.
Comment ça?
Parce que je vais entendre des paroles comme ça. Ah, tu sais, je peux penser à ça. Ça me.
Non, mais il peut peut-être te dire.
Non, mais c'est pas ça se discute pas avec une femme, quoi.
Oui, mais c'est ton mari. C'est normal qu'il doit te parler de ses difficultés.
Oui,
c'est normal que. Il va peut-être pas rentrer dans les détails, mais il va te dire, ça m'est difficile.
Non, c'est sûr que non.
Non, mais il va pas avoir... Non, c'est sûr, c'est pas une disque... Mais moi, je pense que, tu vois, s'il arrive à te sensibiliser et à t'expliquer sa difficulté, regarde, tu vois, c'est important. Ce sera plus facile. Et regarde, donc automatiquement, tu vas sortir de cet esprit, tu vois, de... tu sais, de rancœur et ce Aïnra et tout ça. Il faut profiter de cette période, d'accord, de...
Entre nous, mais quand on a un problème, on ne sait pas en parler.
Et c'est ça, il faut profiter et en parler avec son mari. Tu comprends? Et crois-moi, c'est pas ton ennemi, c'est ton ami. C'est sûr qu'il va venir, t'aider. Je suis sûre et certaine. Qu'on soit zohar, si Dieu veut, cette semaine, Jennifer, de parler avec nos maris et d'expliquer ce qui nous dérange. Mesrat Hashem, pas de rancœur.